Bonjour à tous, à toutes. C'est une joie pour moi donc de revenir parmi vous pour apporter la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, cette parole qui est agissante. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'avez expérimentée, n'est-ce pas ? Je transmets les salutations aussi du comité que je représente à travers ce qu'on appelait avant la Fédération évangélique de France, qui donc maintenant s'appelle le réseau FEF. Et donc, comme vous le savez, on m'a confié la présidence. Je vous transmets les salutations de la part du bureau de cette institution évangélique, hein, l'un des quatre pôles évangéliques, on va dire, en France, qui sont sous le chapeau, on va dire, du Conseil national des évangéliques de France. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce texte-là, j'aurai l'occasion de faire un survol de ces versets que je considère particulièrement riche d'Éphésiens chapitre 2, j'aimerais les introduire par deux petites histoires tirées de la Bible. Alors, il y a des choses dans la Bible comme ça, très, très animées, très vivantes, enfin en tout cas qui m'interpellent, qui interpellent aussi les générations au fur et à mesure du temps qui s'écoule. La première histoire qui a beaucoup marqué Israël, c'est l'histoire d'une vision qu'a eu un jour un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Un jour, Ézéchiel a vu une vallée. Et dans cette vallée, il y avait plein d'ossements. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors, c'était impressionnant, ces ossements. C'était comme des cadavres, mais en squelette, qui étaient inertes, bien évidemment, comme des ossements, dans cette vallée. Et puis, tout à coup, un vent s'est mis à souffler. Et Dieu a parlé à ce prophète pour lui dire « Regarde ce qui va se passer ». Dieu lui a donné une vision impressionnante de ce qui attendait un jour son peuple. Et il a dit « Regarde bien de tes yeux ». Et il a vu progressivement comme de la chair se mettre autour de ses squelettes, autour de ses os, et créer comme des êtres humains dans cette vallée. Puis ensuite, son regard s'est prolongé, Dieu lui a dit de regarder encore plus près et qu'il allait voir quelque chose encore de plus surprenant, c'est qu'un souffle de vie s'est manifesté sur ses ossements, qui étaient devenus déjà comme des corps, et ils se sont levés. Et ça fait partie de ces grandes visions que Israël a eues dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. Dieu a parlé, et il a dit à travers la bouche du prophète, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, voici ce que dit le Seigneur Dieu à ses ossements, je veux faire venir en vous un souffle ou l'esprit. » C'est le même mot dans l'hébreu. « Et vous vivrez. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. » Et pendant que le prophète regardait cette scène, il a vu donc sous ses yeux s'accomplir ces choses. Alors c'est une vision assez surprenante, mais qui est prophétique. Prophétique de l'œuvre de Dieu dans la nouvelle alliance. Prophétique de ce que Dieu allait faire pour faire passer de la mort à la vie. Voilà pour la première image. La deuxième image, je vais la prendre dans l'évangile de Jean, je vais vous la raconter très très brièvement. C'est l'histoire d'un homme qui était complètement aveugle. Un homme aveugle de naissance à qui Jésus va parler. Un jour, les disciples s'étaient posé la question et demandaient à Jésus, mais comment ça se fait qu'il est aveugle de naissance? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est ses parents? Vous connaissez ce récit dans Jean 9. Et Jésus dit non, c'est ni ses parents, ni lui, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus va s'approcher de cet homme, il va cracher par terre, faire de la boue et appliquer la boue sur les yeux de cet aveugle. L'aveugle devait être extrêmement surpris de ce qui se passait là. Et Jésus va lui donner un commandement. Va au réservoir de Siloé. Donc un peu plus bas, là dans la descente là-bas vers de Jérusalem. Va dans ce bassin qui était bien connu et lave-toi dans ce bassin. On aurait pu imaginer la réaction de cet homme en disant n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me dit là d'aller là-bas, qu'est-ce que ça va me faire, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Mais ce que le récit nous dit, c'est que cet homme, il crut dans la parole que Jésus lui avait dite. Il a marché, tant bien que mal, il connaissait bien les petites ruelles de Jérusalem, il a réussi à trouver le bassin de Siloé, il a pris de l'eau de ce bassin, il l'a appliqué sur ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Sa vue a été retrouvée. Il a commencé pour la première fois de sa vie à voir la lumière. Et c'est comme ça qu'il a été guéri, par une simple obéissance. Et dans le contexte de l'évangile, c'est vrai que c'est situé dans un passage, juste le chapitre après, où Jésus avait dit, dans Jean 8, verset 12, qu'il est lui la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on a un exemple dans le chapitre qui suit, d'un homme qui va sortir des ténèbres et qui va découvrir la lumière de la vie, comme une sorte de résurrection intérieure qui va lui permettre de voir véritablement le vrai sens de la vie. Alors j'ai choisi ces deux petits récits tirés de la Bible pour vous parler de l'œuvre que Dieu fait dans la vie de celui qui croit véritablement en lui. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu, dans cette alliance, accomplit ce qu'il avait dit par les prophètes. Il veut faire de nos ossements un être vivifié par son esprit. Heureux celui qui passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qui découvre ce que la Bible appelle la vie. On sait que dans l'évangile de Jean, c'est l'un des grands thèmes que Jésus est venu apporter la vie dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et qu'est-ce que c'est cette fameuse vie éternelle? Ce n'est pas simplement un ticket pour aller au ciel un jour après la mort. La vie dans l'évangile de Jean, c'est un passage qui commence sur cette terre, qui nous arrache des ténèbres et nous conduit à la lumière de la vie, qui nous fait naître à la vie même de Dieu. Jésus disait à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de cette vie d'en haut, de cette vie nouvelle, qu'il ne passe pas par cette nouvelle naissance, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, on va donc regarder ce texte d'Éphésiens 2. Je trouve que c'est un des textes les plus explicites pour parler de ce passage de la mort à la vie que Dieu veut nous accorder. Paul le rappelle aux Éphésiens. Alors parfois, parmi les chrétiens, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure, on va dire, dans les églises. Et il peut y avoir le cas de figure de quelqu'un qui est là, on va dire simplement, par habitude. Hein, c'est vrai que nos parents nous ont élevés dans la foi, on vient, on suit, mais il n'y a jamais eu de déclic dans notre vie. On n'a jamais compris vraiment le message. On vient, on écoute, ça nous endort un petit peu, on a tellement l'habitude d'entendre ces choses que, bon, on n'écoute même plus vraiment, quoi. On est là, assis dans son coin, et on dit que c'est un bon moment quand même, il faut garder les traditions des parents, et puis c'est pas mauvais d'aller dans une église. Alors, donc, premier cas de figure, on va dire, c'est quelqu'un qui est bercé depuis son berceau dans la foi chrétienne, qui a entendu des belles choses sur Dieu, mais qui n'a jamais expérimenté ce que c'est vraiment ce passage des ténèbres à la lumière, qui n'a jamais vraiment connu la réalité de cette expérience. Et puis le deuxième cas de figure, mais pour faire vraiment très très simple, c'est celui qui un jour, par différentes circonstances de la vie, a été amené à prendre conscience de cette vie nouvelle qui est dans le Christ, et qui non seulement en a entendu parler, mais l'a expérimenté au plus profond de lui-même, ce passage des ténèbres à la lumière. Alors, dans les deux cas de figure, le rappel de ces choses est fondamental. Alors d'abord, pour celui qui n'a jamais connu le passage de la lumière à la vie, ça peut être salutaire pour lui d'entendre, peut-être sous un nouvel angle, l'explication de ce que c'est ce passage, justement, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Pour celui qui a déjà vécu cela, eh bien là, il faut savoir qu'on n'est pas immunisé après à régresser spirituellement. On peut avoir vécu un jour cela, et puis pour toutes sortes de raisons, par les soucis de la vie, un peu comme dans la parabole du semeur, vous savez, la troisième terre, elle est étouffée par les épines, les ronces. Et Jésus dit, ces épines et ces ronces, c'est un peu comme les soucis de la vie, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie qui viennent comme des ronces étouffer cette semence et l'empêcher vraiment d'apporter, de porter du fruit. Et bien ainsi, parfois dans les églises, on peut aussi avoir vécu une expérience d'engendrement à la vie, mais parce qu'on est étouffé, plus ou moins, on a besoin de réentendre pour que replacer un peu les priorités dans notre vie. Et je pense que si Paul rappelle aux Éphésiens cette expérience bouleversante qui s'est passée déjà dans leur vie, il sait, l'apôtre Paul, que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu ont expérimenté ce passage de la mort à la vie, mais il sait combien c'est important de réentendre cela. Paul disait d'ailleurs aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter toujours la même chose, n'est-ce pas ? C'est pour vous salutaire que de réentendre ces choses-là. Alors on va lire ou commenter brièvement ce passage que vous avez entendu tout à l'heure au chapitre 2 d'Éphésiens. Alors le contexte de ce chapitre, en fait, c'est une prière qu'on trouve à partir du verset 15 du chapitre 1, où Paul, après avoir fait une description époustouflante, presque vertigineuse des bénédictions que Dieu a répandues en Christ dans les lieux célestes, surtout ceux qui sont appelés au salut, eh bien il prie. Il prie des versets 15, verset 18, pour que ces chrétiens reçoivent un esprit de sagesse, de révélation, que les yeux de leur cœur s'illuminent, qu'ils comprennent vraiment, parce qu'on peut entendre ces choses et tellement après les avoir entendues tellement souvent que finalement ça ne nous parle plus du tout. Et il prie pour qu'ils aient un esprit de sagesse, de révélation qui l'amène à comprendre, qui les amène à comprendre plusieurs choses. À comprendre l'espérance qui s'attache à cet appel que Dieu leur adresse, à comprendre la richesse de l'héritage qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi qu'ils comprennent la puissance que Dieu met à notre disposition en tant que chrétien. Il dit cette puissance surabondante, il utilise presque tous les mots qu'on peut envisager dans la langue grecque pour décrire la richesse de la force et de la puissance que Dieu veut déployer dans notre vie, que Dieu veut mettre à notre disposition. Et il dit cette même puissance, Dieu, il l'a déployée un jour, de manière définitive, de manière extraordinaire, dans le Christ, en l'arrachant de la mort et en le faisant asseoir à sa droite, en le ressuscitant, le faisant asseoir à sa droite, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans cet âge présent et dans l'âge à venir, en faisant de lui la tête, le chef de l'Église. Alors il prie pour que ces chrétiens d'Éphèse puissent comprendre que cette puissance que Dieu met à notre disposition, elle a déjà été déployée en Christ, en l'arrachant de la mort et en le conduisant, lui, à la vie, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il poursuit sa phrase, en fait, c'est presque une même phrase, puisque dans le texte original, il n'y a pas de point ni de saut de ligne. Chapitre 2, verset 1. Et vous aussi, vous qui êtes au bénéfice de cette puissance, eh bien, comprenez bien qu'elle a été déployée en Christ, cette puissance. Mais, chose incroyable, cette puissance, elle vous a aussi, vous, arraché de la mort pour vous conduire à la vie. Cette même puissance qui s'est déployée en Jésus en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite, Paul explique que c'est cette même force-là qui est à l'œuvre, qui vous arrache au pouvoir de la mort et qui vous vivifie avec Christ, qui vous unit à lui dans sa mort et sa résurrection et qui vous assoit aussi avec lui de manière mystérieuse dans les lieux célestes avec Christ et qui fait de vous donc une nouvelle créature. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, comment Dieu opère un prodige extraordinaire dans la vie de celui qui met sa foi en Jésus-Christ pour le faire passer de la mort à la vie. Alors dans la première partie de cette lecture qu'on vient de faire, des versets 1 à 4, nous avons un tableau qui ressemble un peu au tableau que je vous avais donné il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Tite. On a plusieurs tableaux qui décrivent la condition humaine. On a par exemple aussi Romains 1 à 3 qui décrit la condition humaine. On a plusieurs textes. Là, c'est un des textes majeurs qui, en l'espace de quelques mots, concentre une quantité d'informations extrêmement riches sur qui est l'être humain sans Dieu. Quelle est la condition humaine sans Dieu? Et comment Dieu voit l'être humain sans lui? Alors, comment le voit-il? Verset 1, il dit, voilà, vous, Paul écrit, vous étiez comment? Vous étiez mort dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il dit, vous étiez autrefois sous l'empire de ce monde. vous marchiez selon le train de ce monde. Vous étiez comme entraîné par une force qui vous faisait aller dans une direction qui est la direction de ce monde. Vous étiez, troisièmement, sous la puissance de celui qui est appelé le prince de la puissance de l'air. Voilà un petit peu la condition. Et vous étiez, vous aussi, animé de cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Un drôle de tableau, n'est-ce pas, pour décrire la condition humaine. Je ne sais pas si vous vous y reconnaissez, si nous nous reconnaissons dans ces paroles. Il dit, voilà ce que vous étiez. Mais Paul, après, quand il va dire, il dit, il n'y a pas seulement vous. Nous les Juifs aussi, nous qui avons eu une belle éducation religieuse, nous étions dans cette catégorie-là, il dit dans le verset qui suivra. Mais là, pour l'instant, on voit donc quelle est la condition humaine sans Dieu. Comment Dieu voit l'être humain ? C'est vrai que dans l'approche très humaniste, contemporaine, et c'est vrai qu'il y a des choses quand même très positives, hein, dans les versions humanistes du XXIe siècle, quand on regarde par exemple dans l'Antiquité grecque, qui était aussi pour certains très humaniste, mais ils avaient une vision de l'être humain qui était quand même assez particulière, ils distinguaient des catégories, les esclaves qui étaient la majorité des peuples, même chez Aristote, les grands penseurs de l'Antiquité, et puis l'homme libre, le citoyen, etc., qui lui est programmé pour commander l'esclave, lui il est comme programmé pour être tout le temps au service des autres. Il y avait une conception de la condition humaine quand même assez surprenante dans certains des écrits qui ont pourtant marqué l'Occident d'ailleurs. Hein. Mais comment la Bible voit-elle la condition humaine ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on exalte l'être humain, souvent c'est un discours plutôt d'apparence, hein, on exalte pour mieux exploiter souvent les personnes, mais comment Dieu voit-il l'être humain ? Eh bien, une des choses qui ressort du tableau que la Bible fait de l'être humain, c'est qu'il est asservi à des puissances de mal. Il est sous le contrôle de puissances qui le maîtrisent, que lui, par contre, ne maîtrise pas. Il est comme une marionnette, un pantin, qui est manipulé par des forces et dont il ne se rend même pas compte. Il est comme un être sous hypnose, qu'on téléguide à distance. Et là, nous avons le tableau de ce qu'est l'être humain sans Dieu. Alors, bien sûr, les gens qui ne sont pas croyants, quand ils lisent ça, ils disent « Oh, mais là, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire du tout, ces choses-là. » Et pourtant, c'est un tableau d'une puissance et d'une finesse absolument remarquable pour comprendre comment Dieu voit l'être humain. Il voit d'abord l'être humain mort spirituellement, pas mort physiquement, mais mort spirituellement. Il est comme un cadavre au sens spirituel, dans le sens que comme ces ossements dans le désert, là dont on a parlé, dans cette vallée qu'Ézéchiel avait vue, il n'y a pas de vie dedans. Et dans le monde qui nous entoure, il n'y a pas la véritable vie de Dieu. Il y a une forme de vie biologique, mais il n'y a pas la véritable vie qui est dans le cœur humain. Nous étions morts. À cause de quoi ? À cause du péché. Le péché qui a fait son entrée dans ce monde, vous connaissez ce texte de Romains 5, comme par une seule offense, la mort a fait son entrée dans ce monde, etc., ou par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue à tous les hommes, eh bien, nous apprenons que la mort nous a atteints. L'humanité est une forme de grand groupement de zombies, en quelque sorte, d'êtres qui sont morts spirituellement, tout en étant vivants biologiquement. Dieu voit l'humanité comme des sortes de cadavre spirituel, en qui il n'y a pas le souffle de vie. Nous étions de leur nombre, hein, dit ce texte, enfin, si on remonte un petit peu avant, nous étions morts spirituellement, nous vivions autrefois, il dit, selon le train de ce monde. Le mot bon, train, il n'existait pas dans le grec, c'est le mot, c'est bizarre, parce que Paul utilise une expression, nous étions manipulés sous la pression de l'âge de ce siècle. L'âge de ce monde, dans le grec. C'est un peu compliqué à traduire, mais c'est une grosse lourdeur que met Paul volontairement pour désigner le poids de pression que le monde exerçait pour nous. Nous étions en gros comme des brebis qui suivions, sans même nous en rendre compte, la pression qui s'exerce dans ce monde. On marchait n'importe comment, téléguidé, sans même s'en rendre compte. On le voit d'ailleurs dans la logique des modes. C'est surprenant, hein, comment dans les cultures différentes, une mode apparaît et hop, les gens, les uns suite des autres, se mettent à la même mode et on voit comment l'être humain est un peu comme un mouton qui suit. Eh bien, nous vivions, dit Paul, selon l'âge de ce monde, selon le prince, ou plutôt selon le rouleau compresseur que le monde exerce. Il nous manipulait et on voit nos cultures, comment on peut être façonné par les cultures, et la culture de pas simplement de son propre pays, mais la culture humaine de manière globale, qui ne laisse pas la place à Dieu. Eh bien, nous étions, nous, selon le train de ce monde, dans la mort spirituelle. Le premier grand facteur, donc le premier grand moteur de notre comportement, nous dit ce texte, c'est la pression du monde. Le monde est comme personnifié ici, il agit pour entraîner les personnes. Le deuxième personnage qui intervient comme moteur du comportement humain, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est une image, parce que dans l'Antiquité, c'est vrai qu'on voyait, surtout chez les Éphésiens ou chez les Colossiens, dans l'Asie mineure de l'époque, on distinguait le monde des esprits dans une réalité spirituelle. On disait qu'il y avait ce monde des esprits. Eh bien, le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. L'air, c'était ce qui séparait le ciel et la terre. Bon, c'était une image, mais pour parler du diable, en fait, simplement. Qui s'interpose entre toute véritable relation avec Dieu et qui tient les gens sous sa coupe. Nous étions, nous aussi, sous la puissance du diable. Et c'est surprenant parce que dans la pensée de la Bible, l'être humain, il est ou bien d'un côté ou de l'autre. Jésus disait aux chefs religieux de son temps, pourtant enseigné dans la parole de Dieu, enseigné dans la plus haute compréhension, on va dire, de la révélation de l'Ancien Testament, à savoir les pharisiens, il leur disait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. C'est surprenant de voir comment... quand on n'est pas sous l'autorité de Dieu, nous sommes, même dans la religiosité la plus proche de la Bible, on est encore sous l'influence et la manipulation du diable. Nous étions, troisièmement, agités à manipuler par, il dit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y avait comme un esprit de contestation profond en chacun d'entre nous, et qui reste encore dans notre vie ancienne, n'est-ce pas, et qui est agissant, il est appelé ici un esprit de rébellion. Alors si on va au verset suivant, il nous dit, nous étions, maintenant cette fois Paul se place dans le lot, c'est pas seulement vous, n'est-ce pas, mais nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions, il récapitule pour dire, nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant, comme traduisent d'autres, exécutant les volontés de la chair. C'est intéressant parce qu'on a, plusieurs approches. C'est assez complémentaire. Une approche qui met en avant la puissance de la société, du monde, on dirait des forces sociales qui sont à l'œuvre dans la société. Il y a aussi la puissance, le prince de la puissance de l'air. Là, on pourrait parler de puissance démoniaque, des forces spirituelles qui sont à l'œuvre. Et là, quand il récapitule les choses... Il parle de la dimension beaucoup plus psychologique, en disant « nous étions finalement, tous de leur nombre, manipulés par ce que la Bible appelle la chair ». Derrière la chair, on peut y mettre ces trois puissances ténébreuses qui ont été décrites dans les versets précédents. La chair est l'instrument par excellence du diable dans la Bible. C'est l'instrument par excellence de manipulation de la pression du monde pour agir en nous. Eh bien, nous étions, nous, là, manipulés par notre vie ancienne. Alors c'est vrai que c'est un défi hein, de prendre conscience de ça, parce que c'est comme une personne sous hypnose, si on essaie de lui parler, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. Elle ne comprend pas, il faut que ça soit une sorte de miracle pour qu'elle prenne conscience qu'elle est hypnotisée. Hein, ou comme une personne un peu somnambule, ouais, qui marche là sans trop savoir où elle va, on peut lui parler, mais non, ça ne va pas faire une oreille, ça sort par l'autre, elle est dans son petit monde. Eh bien, lorsqu'on appartient aux forces de ce monde, aux forces des ténèbres, on est comme... aveuglés, sur rien qui nous tienne. Il faut vraiment un miracle, comme cet homme qui était aveugle, qui a eu les yeux ouverts et qui a pris conscience de la réalité de Dieu, qui est passé des ténèbres à la lumière. Et bien là, nous étions tous dans cette logique d'accomplir les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alors pour terminer, on va passer au verset suivant, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit que heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans cette condition-là. Dieu, dans sa miséricorde, veut nous sortir de là. On apprend que Dieu, qui est plein de compassion, Dieu qui vibre d'amour pour nous, quand il nous voit là complètement manipulés par ses forces de ténèbres, il a réagi. Comme le peuple d'Israël, qui était complètement dans l'esclavage en Égypte, dominé par toutes ces pressions qui étaient sur lui, et par la pression en particulier de l'Égypte et du Pharaon, Dieu a eu pitié de son peuple. Il a eu une compassion immense, il est intervenu en envoyant Moïse et en sortant ce peuple de son esclavage. Dieu aussi veut nous sortir de l'esclavage. À cause de quoi ? Est-ce que c'est parce que nous le méritons ? Est-ce que c'est parce que nous sommes meilleurs que les autres ? Non. Il nous dit c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, eh bien qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a rendus à la vie. C'est difficile à traduire parce que c'est un seul mot en grec. Paul après se crée un mot qui veut dire rendre à la vie avec. C'est un même mot pour décrire la puissance de transformation que Dieu a fait pour nous énergiser complètement, pour nous électriser comme ce qui s'était passé dans ces ossements dans le désert, pour donner la vie par le souffle de vie et permettre à ces ossements de se lever, de se redresser. Dieu a opéré un miracle dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, je sais que le jour où je suis passé de la mort à la vie, ça a vraiment été un moment les plus marquants de mon propre parcours. J'avais 21 ans et c'est comme si c'était hier pour moi, ce jour où j'étais passé de la mort à la vie. Alors je sais, quand on grandit dans une famille chrétienne, ce n'est pas toujours évident, le chemin. L'important, ce n'est pas forcément d'avoir vécu une expérience très intense, très forte. L'important, c'est de vivre en nouveauté de vie aujourd'hui. Les moyens par lesquels on y passe, c'est presque secondaire, je dirais. Mais l'important, c'est d'être passé un jour par cette vie nouvelle que Dieu apporte par son esprit. Il le reformule ainsi au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble ». C'est des mots qu'il construit, l'apôtre Paul, parce qu'il met le mot « avec », il le met comme un préfixe du verbe pour dire « Il nous ressuscite avec », mais c'est tellement proche, tellement fort cette union avec Christ que ça s'est fait justement à travers notre relation avec lui comme un morceau de bois mort qu'on grefferait sur un divin cep. C'est à travers cette greffe que nous sommes unis avec lui dans la mort et la résurrection. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Il nous a ressuscités pour nous faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alors voilà donc un survol très rapide. Il nous donne maintenant une vie nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quelques applications qu'on pourrait faire à ça. Première application, c'est que nous devrions être reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Nous devrions dire « Merci Seigneur ». Pour ce que tu as fait dans ma vie. Je ne le comprends pas très bien, ce n'est pas important de comprendre toutes les finesses et les subtilités, mais je sais que tu as fait en moi quelque chose d'extraordinaire. Comme cet homme qui était aveugle de naissance, on lui posait la question, mais comment est-ce possible, qu'est-ce qu'on t'a fait, qui est cet homme qui a fait ça ? Il dit, écoutez, moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que je vois maintenant. Il est rempli de reconnaissance parce qu'il a expérimenté lui-même. Première chose des applications, c'est la reconnaissance. La deuxième chose, c'est prendre conscience que maintenant que je suis vivant pour Dieu, mes objectifs forcément changent. Maintenant, ma vie n'est plus la même qu'avant. Avant, ma préoccupation, c'était surtout mon petit nombril, c'était peut-être des objectifs très humains, très humanistes que je pouvais me faire, bien m'intégrer dans la société, faire plein de choses. Mais maintenant que je suis né de Dieu, l'objectif de ma vie, c'est la gloire de Dieu. C'est rechercher ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est apprendre à honorer Dieu et mon prochain, apprendre à aimer mon prochain aussi. La troisième application qu'on pourrait faire de cela, c'est de dire, Seigneur, tu m'as fait vivre ces choses. Maintenant, je t'appartiens. Maintenant que tu m'as vivifié avec toi, maintenant que je suis ressuscité avec toi, je suis ta propriété. Et ce qui veut dire que je prends conscience que tout ce que j'entreprends, tous les projets que je fais, je veux les faire en communion avec Dieu. Je veux les faire en les faisant connaître à Dieu, fais connaître à Dieu ou recommande ton sort à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Alors ainsi, Dieu veut nous donner la capacité de prendre conscience que nous lui appartenons. Et je conclue juste par ce verset 10 qui nous dit que maintenant, nous sommes son ouvrage. Nous sommes comme sa nouvelle création. Ce qu'il dit juste après, ayant été créé. Nous sommes son ouvrage qu'il a façonné. Nous sommes une nouvelle création en Dieu. Une nouvelle humanité maintenant, nous qui l'appartenons. Nous sommes créés en Christ Jésus, pas simplement pour dire merci, et c'est déjà une bonne chose, mais aussi pour les œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous d'avance, pour que nous y entrions. Que Dieu nous donne d'entrer dans ses œuvres, discerner sa volonté pour pouvoir glorifier son nom. Je propose de prier ensemble et de remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, merci en effet pour ce privilège que nous avons d'être passés de la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière, du pouvoir de Satan à ton autorité. Nous désirons, Seigneur, que plus concrètement, tu développes en nous cet esprit de reconnaissance pour ce que tu as fait. Tu nous aides à prendre davantage conscience que maintenant que nous t'appartenons, nous n'avons plus les mêmes objectifs. Notre désir, c'est de te glorifier. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous cet ouvrage nouveau que tu as créé en Jésus-Christ pour que nous puissions pratiquer ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, pour que nous y entrions. Je te demande de bénir ton Église ici, de la renouveler dans la foi, de bénir chacun de ceux qui t'appartiennent, pour qu'ils soient tes ambassadeurs, là où tu les places, pour qu'ils soient ce reflet de ta personne et de ta vie. Amen.